je jure de me tenir aux côtés de mes frères pour la liberté et la dignité de combattre l'agresseur.
Tire à droite. Ok, route. Ok, go.
Ces images de propagande ont toutes été filmées en Ukraine, au cœur du conflit avec la Russie de Vladimir Poutine. Mais ces soldats que vous voyez tirer à l'arme de guerre ou s'entraîner au combat ne sont pas des Ukrainiens. Ce sont des Français et surtout des militants néo-nazis. Certains d'entre eux sont même des anciens de l'armée française et combattaient encore très récemment dans nos régiments.
Cette semaine, suite de la précédente visite avec les potes d'Alice et les Antilles. Parce qu'il le faut bien, les temps sont troubles et l'action d'informer et d'éclairer, même à Radio Alpa, n'est ni un vœu pieux, ni un vain mot. On élargit la focale et on essaye de repérer ici plusieurs types de violences, peut-être reliées entre elles. Grâce à trois sources sûres et indiscutables, une partie de la cause, des universitaires sérieux et des humoristes qui le sont tout autant. Bonjour et bienvenue dans cette 12e visite de la saison 9 du Panthéon décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Avant de revenir au sujet excellent signé Street Press du mois dernier, courte intervention de l'historien Nicolas Hoffenstadt le 24 février dernier en direct sur BFM et en présence de la ministre Aurore Berger.
Voilà, pour parler un peu plus de moi, je suis ancien militaire français. Je suis venu combattre en Ukraine principalement pour trois choses. La première, c'est de défendre l'Europe du communisme, ainsi que défendre les populations innocentes ukrainiennes qui sont persécutées par l'envahisseur, et ainsi que, bien sûr, tuer le plus de Russes possible.
Ils se sont réunis dans un bataillon, la Légion Pirate. Ils se comparent à des unités de l'Allemagne nazie, arborent des symboles du Troisième Reich ou ont carrément des tatouages de croix gammée sur le torse. Grâce à l'enquête du journaliste Sébastien Bourdon pour Street Press, on a pu identifier certains de ces combattants ultra-violents. Et leur parcours est lié de très près à l'extrême droite française. Sur des images, on voit même certains qui s'entraînent carrément au tir sur des cibles siglées La France Insoumise ou le Nouveau Front Populaire. Tout ça, ça pose vraiment la question de ce qu'ils pourraient faire une fois de retour en France, après cette guerre qui a causé des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés.
Moi, qu'un ministre de la République emploie ce terme parce qu'il est très connoté historiquement. C'est pas un terme général qu'on pourrait utiliser. À quoi il renvoie fondamentalement? Tous les historiens le savent, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études. Il renvoie à l'extrême droite de l'entre-deux-guerres dans ses aspects les plus violents. Qu'est-ce qu'utilisait ce terme anti-France? C'était l'Action française et son leader Charles Maurras. Et qu'est-ce qu'il désignait par l'anti-France? C'est ce qu'il appelait les États confédérés, c'est-à-dire les ennemis de la France. Et qui considérait? Les Juifs, les métèques, les protestants et les francs-maçons. Donc l'anti-France, hein, c'était très situé historiquement, bon, ça renvoie à l'entre-deux-guerres, ça renvoie au racisme de l'extrême droite et ça renvoie à cette dénonciation des métèques, des juifs, des francs-maçons et des protestants.
La référence, vous l'avez
donc,
évidemment.
Donc j'imagine mal qu'un ministre de la République ne puisse pas savoir que ça renvoie avant tout à ce vocabulaire-là, c'est très connoté et ça a été utilisé sans cesse par l'extrême droite, non pas seulement par Maurras mais par d'autres, il y avait des cahiers de l'anti-France hein, qui dénonçaient justement, qui étaient tout empreints de racisme et d'antisémitisme.
Le 24 février 2022, vers 6h du matin, des dizaines de milliers de soldats russes envahissent l'Ukraine.
J'ai pris la décision de lancer une opération militaire spéciale.
Les principales villes sont bombardées. Très vite, de nombreux volontaires français rejoignent les rangs du pays attaqué. Selon les informations de Mediapart, ils sont déjà plus de 150 à combattre sur place en 2022. Déjà à l'époque, le journaliste Sébastien Bourdon suit la situation de très très près.
En 2022, dès l'invasion russe de l'Ukraine, ce que je constate très rapidement, c'est que des profils que j'avais déjà identifiés dans des précédentes enquêtes qui portaient sur la présence de néo-nazis au sein de l'armée française, qu'un certain nombre de ces profils prennent la direction de l'Ukraine pour s'y engager militairement. Et ça, ça se voit en fait tout simplement parce qu'ils se mettent en scène sur les réseaux sociaux et ils communiquent activement sur la route qu'ils prennent pour aller en Ukraine.
En 2025, ils découvrent que ces combattants ont lancé leur propre unité, la Légion Pirate. Ils seraient une vingtaine, mais dans les faits, difficile d'en savoir plus. Et ce, malgré une communication sur les réseaux sociaux où ils se présentent presque comme des forces spéciales. D'après l'un d'eux qui se fait appeler Charlemagne, ils ont surtout l'air d'être des éclaireurs.
Le principal type de mission qu'on a ici, c'est de la reconnaissance. On peut être mené à faire de l'assaut aussi.
Dans leurs nombreuses vidéos de communication, on peut voir le logo de cette Légion Pirate, avec beaucoup de références à l'extrême droite. Au centre, on voit une Totenkopf, un emblème utilisé par des unités SS durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est accompagnée de trois fleurs de lys, un symbole de la royauté, souvent repris par des militants nationalistes français sur les réseaux. Avant de s'appeler Légion Pirate, l'unité se nommait War Aggressive. Pour recruter, ses membres font beaucoup de vidéos sur leurs réseaux sociaux. C'est une immersion dans leur vision de la guerre. Ils se filment en opération ou en train de tirer à la mitrailleuse ou au lance-roquettes. Il y a également beaucoup de vidéos où ils font de la gonflette. Vu que c'est de la com, il joue aussi avec les codes d'internet, parfois avec des chansons surprenantes, comme ici, au milieu d'une tranchée.
Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux abîmes, mais pourtant.
Dans l'armée ukrainienne, cette unité est rattachée à un bataillon en particulier, Revanche. C'est une formation liée au parti ultra-nationaliste orthodoxe ukrainien, Ordre et Tradition. On voit d'ailleurs les combattants français leur prêter serment dans des vidéos.
Je jure d'obéir aux ordres de mes commandants et de respecter strictement la discipline et les règles de l'unité.
Vous verrez, je reviendrai souvent à ce doc stupéfiant de Street Press. Pour l'heure, au début de l'année, le sociologue Vincent Thiberge nous éclaire sur qui vote très à droite désormais. Il échangeait avec Aude Lancelin et François Bégodeau dans QG.
On assiste à des phénomènes de basculement, d'extrême droitisation des électeurs conservateurs. Et en fait, c'est vraisemblablement là qu'est son nouveau souffle. C'est-à-dire qu'entre 2022 et 2024, on voit basculer, par exemple, les catholiques pratiquants réguliers, qui jusqu'ici ne votaient pas RN.
Oui.
Ça ne se faisait pas.
Ouais, tout à fait.
Alors même qu'ils faisaient, ils avaient plein de choses en commun avec le RN, notamment, effectivement, sentiment anti-immigré, une vision conservatrice de la société, etc. Mais ça basculait pas. De la même façon, je bosse énormément sur les questions de génération, et il y avait quelque chose de très frappant, c'est que plus une génération est ancienne, plus elle compte de conservateurs. Mais les boomers conservateurs ne votez pas RN jusqu'en 2022. Et là, vraisemblablement, il se passe quelque chose avec Éric Zemmour, il se passe quelque chose avec les transformations du monde médiatique qu'on connaît bien, qui font que désormais, les boomers conservateurs votent comme les autres générations pour le RN. Ouais, quelque part, ils s'extrême-droitisent.
Oui.
Et la mauvaise nouvelle, quelque part, si on veut lutter contre le RN, c'est que ce sont des électeurs qui, eux, restent, des citoyens qui, eux, restent électeurs, de manière assez constante.
Ils ont un poids électoral fort, oui.
Ils ont un poids électoral fort, ils sont là pour un sacré bout de temps, et donc, effectivement, désormais, il y a un noyau dur, fidèle, qui va vraisemblablement se reporter sur le RN dès les municipales. Et qui va se reporter sur le RN au présidentiel et par la suite. Et donc, effectivement, désormais, c'est un parti accepté par cet électorat conservateur, qui n'a jamais disparu. Mais il va peser d'autant plus qu'en face, effectivement, les zones de la société, les zones citoyennes qui pourraient contrebalancer et qui, à mon sens, sont beaucoup plus nombreuses, savoir les jeunes générations, les catégories populaires, celles que demandent de la redistribution d'un côté, celles qui sont plutôt favorables à une société ouverte de l'autre. Par contre, là, elles sont pas dans les urnes. C'est ce moment assez absurde où, grosso modo, quand vous êtes face à un adversaire et un ennemi, si vous votez pour barrer la route à l'ennemi, eh bien vous votez pour l'adversaire et ça en fait quand même pas, ça fait pas de votre vote un soutien.
Ouais, c'est ça.
En tout cas, du point de vue de l'individu. Mais pas du point de vue, effectivement, d'un système médiatique qui a une tendance à interpréter les choses d'une certaine manière et d'un système politique qui a tendance à les interpréter comme étant du soutien. Et donc, on se retrouve là dans quelque chose de complètement absurde, c'est-à-dire une disjonction entre ce que les gens veulent dire à travers leur vote et ce qu'on leur fait dire.
Pause chanson. Alors, comme le sujet du jour est tout de même assez violent, j'avais songé un temps à du Cantat, puis me ravisant, j'ai préféré aller jusqu'au bout de ma démarche et vous proposer une chanson d'un groupe autoproclamé d'extrême droite. Ici, en concert, trois filles qui chantent et quatre musiciens derrière. Eux sont à découvert. Elles, les brigandes, sont masquées de noir. Mais je vous rassure, étant trois, elles sont en bleu, blanc et rouge. Remarquez, Yvette Turner aussi. Bref, paroles à droite, toutes et musique plan-plan, extrait.
Ravie de jouer ici aujourd'hui. On a cru entendre que vous aimiez pas trop les antifas. Voilà. Donc les brigandes aussi leur ont préparé une petite chanson.
La spécificité et la question qui se pose pour le coup par rapport à cette légion pirate au sein du bataillon Revanche, c'est plutôt une question qui concerne la France en fait, et c'est le fait donc qu'un certain nombre de Français sur place en Ukraine aient réussi à constituer véritablement une sorte de filière qui fait que des potentiels recrues en France, ça va être beaucoup plus simple pour elles d'aller en Ukraine et de s'engager, puisque du coup elles peuvent, avant même d'arriver en Ukraine, prendre contact avec des gens sur place qui sont prêts à les accueillir, qui sont prêts à les guider et qui sont prêts une fois sur place à les entraîner et à les emmener au combat.
pour la liberté et la dignité de combattre l'agresseur.
Et revanche, c'est pas n'importe quel bataillon, hein, d'après un des Français justement qui a rejoint cette unité. Il parle lui-même d'un bataillon fasciste, donc ça en dit long sur sa propre conception de l'unité qu'il a rejoint.
Libération, juste après la manif parisienne du 9 mai 2025.
Hier, un homme a été condamné au tribunal judiciaire de Strasbourg pour tentative de meurtre. La raison ? Parce qu'il pensait que la personne qu'il voulait tuer était un arabe. Et pendant qu'il tentait de le tuer, il disait « Vive Le Pen ». Oui, un soutien de Madame Le Pen. 18 ans de prison, c'est énorme. Mais ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un acte isolé. C'est le produit d'années de discours, de peur et de haine. Chaque soir, sur les chaînes d'information en continu, on vous répète que l'étranger vole votre boulot, menace vos enfants. Chaque jour, certains politiques vous racontent que protéger nos frontières, c'est sauver la France. Et pendant ce temps-là, la haine se transforme en arme. Littéralement. Cet homme n'a pas inventé la haine. Il l'a entendue, il l'a applaudie et il l'a mise en action. Alors oui, certains vont appeler ça un fait divers. On sort des gros titres et hop, on fait comme si c'était que l'acte d'un fou. Un fou ? Pas du tout. Simplement quelqu'un de nourri à la peur et à la haine légitimée. Mais le racisme tue. Les discours qui l'encouragent tuent. Si vous souriez devant un commentaire haineux, si vous zappez quand quelqu'un crie « Vive Le Pen !» en attaquant un autre humain, vous êtes complice. On peut continuer à banaliser tout ça, à se dire « ce n'est qu'un fait divers » ou on peut regarder la vérité en face. La haine se fabrique. Quand on la laisse grandir, elle frappe. Et la prochaine fois, ça ne sera pas une tentative.
Dans les Français de l'Unité, beaucoup se revendiquent ouvertement du néo-nazisme, comme le Lyonnais Kenneth ou le Parisien César Ojar. Le premier est arrivé dans le pays dès le début de la guerre. Il porte une croix gammée ainsi que plusieurs emblèmes de la SS tatoués sur le corps. Il a aussi un patch sur son treillis où est marqué le slogan suprémaciste White Pride, fierté blanche. Sur Instagram, il s'est comparé aux Einsatzgruppen. C'était des unités nazies chargées d'exterminer les juifs, les tziganes et les opposants politiques en Europe de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale.
3000 hommes partis de Precht, où ils ont reçu une rapide formation, se partagent en quatre groupes le gigantesque territoire de l'URSS, progressant dans le sillage de la Wehrmacht.
Le deuxième, César Ojar, est arrivé en Ukraine en 2023.
Ah, sympathique.
Sur son uniforme, on peut voir un emblème inspiré du Troisième Reich. Dans la version originale, c'est un aigle qui tient une croix gammée. Là, sur celui de César, il y a la même symbolique, mais avec le trident de l'Ukraine à la place. César Ojar, je le connais bien. J'ai fait le portrait de ce militant d'extrême droite en 2024. En France, il a participé à plusieurs combats de hooligans avec la bande parisienne Jeunesse Boulogne. Dans ce montage, il mélange même des images de ses bagarres dans l'Hexagone et de ses faits d'armes en Ukraine.
Retrouvons Nicolas Offenstadt, toujours le 24 février dernier, mais sur le plateau de T18 qui, les soirs de semaine, offre un débat en plateau plus équilibré que bien d'autres chaînes de la TNT, pour tout dire, présenté par Mathieu Croissando.
Après 1945, il y a eu quand même un consensus en Europe qui était que, dans le fond, la barbarie nazie, c'était tout ce dont on ne voulait pas. C'est là où on pouvait dire que l'antifascisme était largement partagé en Europe. On pouvait construire différentes Europes, mais pas celle des nazis. Donc c'était un consensus fondateur. Or, quand je vois aujourd'hui le basculement de tout un ensemble de vocabulaire, de relativisation, on a une certaine inquiétude parce que, du coup, ce consensus antifasciste, pour le cas, me semble risquer de s'ébrécher. Quand on relativise la période de Vichy, sous différentes formes sur lesquelles
on pourra... C'est ce qu'a fait Éric Zemmour, par exemple.
Éric Zemmour est celui pour qui l'opération est la plus nette. Hein, l'idée de rassembler les droites en disant que, dans le fond, les mémoires qui ne sont pas les mêmes peuvent se réconcilier, c'est évidemment l'opération la plus lourde. Mais quand aujourd'hui, je vois une élue parler de travail, famille, patrie, trois valeurs en soi qui sont
donc, tout à fait légitimes. Martine Vassal, candidate à la mairie de Marseille, qui est sur un plateau télé,
on sait
a
très
parlé
bien en France, quand même, même sans avoir de grandes connaissances de la période de Vichy, que ces trois termes-là sont ceux qui désignent le régime du maréchal Pétain avec toutes les violences que ça entraîne. Donc on se dit, comment est-ce que des élus de la République aujourd'hui peuvent faire semblant que l'alignement des trois termes, qui encore une fois ne pose aucun problème sur les valeurs, on peut très bien être pour le travail, la famille, la patrie, dans tous les ordres, mais pas dans celui-là.
Mais c'est tellement voilà. Connoté.
Et donc, est-ce que justement ce rejet du nazisme qui a été fondateur de notre République, aujourd'hui n'est pas ébréché par tous ces éléments-là qui viennent de différents points de la droite? Et c'est là où effectivement, du coup, l'histoire doit quand même nous servir d'avertissement.
Avec d'autres hooligans, il a participé à l'agression d'un attaché parlementaire de la France Insoumise en 2023, avant la finale de la Coupe de France de football. Il est parti pour l'Ukraine après cet événement pour fuir la garde à vue. Lui et Kenneth, ils ont rameuté d'autres néo-nazis, qui sont même parfois directement des anciens militaires. Comme par exemple Charlemagne.
Tiens à rappeler que la vie c'est pas un jeu.
C'est évidemment un surnom, qui fait référence au roi des Francs, mais aussi à la division Charlemagne. C'est une unité de la Waffen-SS, composée de volontaires français durant la Seconde Guerre mondiale. Cet ancien militaire, il est passé par le 13e bataillon de chasseurs alpins, près de Chambéry. Il a rejoint l'Ukraine à l'été 2025 et il s'est fait tatouer depuis une croix gammée sur le pectoral gauche. Et il assume totalement ses convictions.
Ce Charlemagne, quand je l'ai contacté dans le cadre du contradictoire vers la publication de l'enquête, il m'a en effet répondu une longue diatribe raciste, nazie, en m'expliquant que la presse est contrôlée par les juifs et ce type de choses. Et il a conclu son message par les mots Sieg Heil. Donc évidemment, il assume parfaitement ses convictions néo-nazies.
Il y a également Rock, là aussi, c'est un surnom. Lui, il a servi dans la Légion étrangère et il porte une croix gammée et des emblèmes SS sur son uniforme en Ukraine. Quant au volontaire qui s'appelle Ilian, il est passé par le 2e régiment étranger parachutiste français. Il nous a dit avoir rejoint la Légion pirate pour son efficacité sur le terrain. Face à ces informations, Sébastien a contacté le ministère des Armées, qui n'a pas voulu s'exprimer sur chacun de ces cas. Mais il a confirmé que ces derniers ont bien été dans les forces françaises et qu'ils ne servent plus. Un discours que Sébastien Bourdon a déjà entendu pour ses précédentes enquêtes.
C'est un peu une parade et une façon d'ignorer le problème, puisque le fait est que ce problème a concerné l'armée française. Un certain nombre des profils que j'ai pu identifier dans cette enquête, en fait, s'affichaient déjà comme ayant des convictions néo-nazies, alors qu'ils servaient encore au sein de l'armée française.
Mais la présence de ces volontaires néo-nazis dans l'armée ukrainienne, ça pose une question essentielle.
C'est la question de leur retour et leur retour potentiel. Le fait est que ces personnes, tôt ou tard, vont peut-être rentrer en France. C'est déjà le cas pour un certain nombre d'entre elles. Et donc, vont rentrer en France en ayant une expérience du combat, en sachant manier des armes. Et donc, évidemment, peuvent représenter une menace compte tenu de leurs idées néo-nazies tout à fait assumées. C'est le cas de l'un d'entre eux qui est surnommé Rock et qui, en mai 2025, est rentré temporairement en France, dans la région de Toulon, avant de reprendre le chemin de l'Ukraine.
L'excellent Hakim Omiri sur Nova, le 5 mars dernier, autrement dit, c'est tout chaud.
Comme un jeune néo-fasciste d'une vingtaine d'années est mort, ils ont interviewé son meilleur pote.
J'ai connu Quentin à l'église il y a à peu près 4 ans. Et depuis, on a commencé à nouer une amitié qui était de plus en plus forte et intime jusqu'à ce que je devienne l'un de ses meilleurs amis.
Alors, on le sent touché. Voilà. Ça m'a presque ému. Il l'a rencontré à l'église. Donc, un mec bien. Mais après, on a découvert qui était ce fameux meilleur pote.
Vincent Claudin est originaire de la ville. Il a même fait partie d'un groupuscule néo-nazi, Lyon Populaire, dissous en juin 2025.
Membre d'un groupuscule néo-nazi. C'est comme un petit groupuscule de lecture. Sauf que tu lis que Mein Kampf, quoi. Donc, il est dans un petit groupuscule, mais il est aussi assistant parlementaire au RN.
Qui aurait pu prédire ?
Là, vous vous dites, tiens... Elle nous l'avait pas présenté comme ça, Lolo la Ferrarance. Ouais, mais c'est normal, ça fait moins pitié d'un coup. D'ailleurs, sortez les chips, il a un sacré dossier, le loustique. Écoutez ses tweets.
Il a appelé à brûler Elisabeth Bornstein et à dégager la Constitution. Dans ses messages racistes, dont les derniers datent d'il y a quelques jours seulement, il appelle les personnes arabes des bougnoules, les personnes noires des marrons. Il s'indigne qu'on puisse se métisser avec des races de singes. Bref, des propos illégaux.
À ce niveau de racisme, normalement, faut mettre de la crème solaire. Ah là, ça tape fort, là. Donc, chez RTL, ils ont dû demander à Jean-Philippe Tanguy, qui était là, comment ça se fait qu'il y a des gens comme ça au RN.
On a découvert, on ne le savait pas, des comptes sous pseudonyme de ce monsieur, qui étaient vraiment des comptes avec des contenus impardonnables.
Impardonnables qu'on les ait découverts, je crois. Moi, je pense qu'il a été viré avec le motif « nul en dissimulation ». Ah si Jean-Philippe Tanguy était taquin, il dirait que c'est de la taquilla.
C'est la taquilla. D'ailleurs, les groupes d'extrême droite ont les mêmes méthodes que les groupes d'extrême gauche, évidemment, mais aussi que les islamistes.
Ah mais à un moment donné, faut applaudir. Le culot, c'est fort, quoi. Non mais les gauchos, prenez-en de la graine. Vraiment, c'est un ennemi politique, mais réussir à dire qu'un néo-nazi fait de la taquilla, c'est une prouesse.
Pour aller manger un falafel, riz des rosières, je mets une kippa et un turban pour faire mon marché. L'antifa ne vous rattrapera pas si vous avez l'air d'un gaulois et si on mange des quenelles frites antisémites.
Ce dernier a montré la menace que les volontaires pourraient représenter en France. En mars 2025, Rock a par exemple immortalisé les cibles en carton sur lesquelles il s'entraînait au tir. Sur l'une d'elles, on voit les inscriptions du PCF, le Parti communiste français, le NFP pour le Nouveau Front populaire et LFI pour la France insoumise. Sur l'autre cible, le néo-nazi a marqué le nom de Clément Méric, un antifasciste tué en 2013 à Paris par un militant d'extrême droite. Après nos révélations, le Parti communiste français et la France insoumise ont annoncé saisir le procureur de la République pour lancer une enquête judiciaire sur ces faits. Avant d'aller combattre en Ukraine, Rock a assisté à deux meetings d'Éric Zemmour durant l'élection présidentielle de 2022, tout comme un autre volontaire de la Légion pirate, Gwendal Cohen-Pourageau. Lui, il a notamment assisté au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte en décembre 2021. C'est le meeting où SOS Racisme a fait un happening avant de se faire violemment frapper. Gwendal Cohen-Pourageau était dans ceux qui ont donné des coups et il a été condamné pour ça. C'est également un ancien membre du groupe Union Défense et des Zouaves Paris. Après l'agression de SOS Racisme, on s'est procuré le dossier judiciaire. Les enquêteurs ont retrouvé des affiches du Front National ou de Génération Identitaire dans la chambre d'ado de Gwendal Cohen-Pourageau, mais aussi des répliques d'armes airsoft et un drapeau lié à l'extrême droite ukrainienne. Mi-janvier, on a d'ailleurs découvert qu'il a quitté le front pour revenir à Paris. On l'a repéré comme chef du service d'ordre du défilé annuel des identitaires dans la ville. Il a encadré la procession qui a rassemblé des néo-fascistes, des cadres de médias d'extrême droite, des figures de Némésis et même des ex-assistants parlementaires du Rassemblement National.
Que du beau monde qu'on vous dit.
Tous les néo-nazis français qui combattent en Ukraine ne font pas partie de la Légion pirate. Plusieurs se sont ainsi réclamés de la LVF, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, une organisation formée par la France collaborationniste durant la Seconde Guerre mondiale et rattachée à l'armée nazie. Sur le papier, c'est un parallèle un peu surprenant entre la guerre de l'Ukraine contre la Russie et la Seconde Guerre mondiale.
Il y a cette idée que ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine, c'est le fait de rejouer le front de l'Est et donc que l'invasion russe de l'Ukraine serait une sorte d'invasion de hordes bolcheviques asiatiques qui déferleraient sur l'Europe blanche, et ce qui correspond parfaitement à ce qu'était la propagande du Troisième Reich dans les années 40.
À l'été 2025, un membre de cette LVF est mort. Il était surnommé Capot, le titre des hommes chargés de l'encadrement des prisonniers dans les camps de concentration nazis. Sur une photo de son enterrement, on peut voir un volontaire habillé d'un treillis de l'armée française qui lui rend hommage avec une reproduction du drapeau de la LVF historique. Alors tout ça, ça rappelle un point de la guerre. Quand Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine en 2022, il prend comme prétexte une dénazification du pays. Sauf que c'est une fausse raison. Déjà, il veut surtout renverser un gouvernement pro-occidental qui voulait rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Et ensuite, l'Ukraine n'est pas un pays nazi. L'extrême droite y a fait des scores ridicules aux dernières élections. Ce qui n'empêche pas d'avoir des néo-nazis dans des bataillons comme Revanche ou l'ex-régiment Azov. Et d'ailleurs, on peut retrouver des profils similaires côté russe.
Bon, d'une, c'est plus vrai du tout. Hein. Les vannes sont lâchées, les camisoles enlevées, perdues dans le métavers de l'archéologie des médias d'opinion. De deux, si vous jugez que la qualité du son n'est pas terrible, dites-vous bien que je n'allais pas passer des heures à rendre audible ici un discours qui pullule partout ailleurs. Ou presque. Après Street Press, Libé et QG, le média. Et après Offenstadt et Tiberge, Paul Elec expose son discours sur la violence ambiante le 22 février dernier.
Tout d'un coup, on retrouve, hein, je le vois dans le commentariat médiatique des derniers jours, des gens qui découvrent que dans une société qui est fondée sur la compétition pour l'accès aux ressources, la confrontation d'intérêts antagonistes très forts, notamment ceux des groupes sociaux et des classes sociales qui composent ce pays, de la violence. Mais comment ne pourrait-il pas en être autrement ? Comment pourrait-il en être autrement, pardon ? À partir du moment où notre société est fondée sur des rapports violents. Alors bien sûr, il y a une violence silencieuse, hein, celle que, par exemple, le sociologue Pierre Bourdieu appelait la violence inerte. N'est-il pas violent de pouvoir mourir sur un brancard oublié dans un hôpital parce que le gouvernement a coupé les fonds et a organisé les conditions d'un désastre à l'hôpital public ? N'est-il pas violent de mourir à la rue tout simplement parce que le logement est un bien privé, susceptible d'être l'objet de la spéculation ? N'est-il pas violent d'avoir les forces de police qui sont utilisées systématiquement pour réprimer toute forme de mobilisation pacifiste, à savoir des manifestations ? N'est-il pas violent d'avoir une justice qui a enregistré dernièrement cette répression en mettant en prison des centaines de personnes qui se sont mobilisées contre la mort de Naël dans un crime policier, contre le gouvernement dans le cadre des Gilets jaunes ? Bon, alors, vous voyez, c'est ça le problème. Et j'ajouterai une deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes militant, que pour vos convictions, vous avez déjà connu la peur. Et je sais ce que c'est d'avoir peur pour ses idées. Hein. Mmh. Et on nous dit, ne faites rien. Laissez vos librairies être attaquées. Laissez vos événements être perturbés par des violents, puisqu'on a bien vu sur les images. Hein.
Avant de quitter cette 12e visite de la saison 9 du Panthéon décousu sur Radio Alpa, sachez qu'elle est rediffusée, que bientôt son podcast sera disponible et que, bien entendu, ne nous quittons pas sans musique et sans un grand classique antimilitariste, mais pas que. Parachutiste de Maxime Le Forestier, l'original parce qu'on n'a pas mieux. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, ne gâchez pas votre parachute contre d'aussi petits tracas de la vie.
Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances, les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tueries, plus de combats, que vas-tu faire? C'est fini le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, de commander à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade, mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste.